Vous êtes avec SBS French.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal des sports de ce jeudi 3 juillet 2025. On commence avec du football et on connaît l'affiche complète des quarts de finale du Mondial des clubs aux États-Unis. Olivier Pron, Radio France Internationale.
5 Européens, 2 Brésiliens, 1 Saoudien, c'est le top 8 de la compétition, Andréane. Cette nuit, qualification du Real Madrid 1-0 dépend de la Juventus Turin, but de Garcia en début de deuxième période et entrée en jeu ensuite de Kylian Mbappé, remis de son virus. Prochain adversaire des Merengues, avec Mbappé donc, Dortmund qui s'est débarrassé des Mexicains de Monterrey 2-1 grâce à un doublé du Guinéen Serhou Guirassy. Real Dortmund, dernier quart, ce sera samedi 20h temps universel à New York. Les 3 autres, vendredi 19h Fluminense face au Al Hilal de Kalidou Koulibaly le Sénégalais, samedi 1h temps universel à Philadelphie, Palmeiras, Chelsea, enfin à 16h toujours samedi, PSG Bayern à Atlanta.
S'ils parviennent à éliminer le Bayern ce week-end à Atlanta, les joueurs de Luis Enrique croiseront ensuite soit le Real Madrid, soit Borussia Dortmund en demi-finale. 8 clubs en quart, donc on le rappelle, 5 Européens, Chelsea, Bayern Munich, PSG, Real Madrid et Borussia Dortmund. À cela s'ajoutent 2 équipes brésiliennes, Palmeiras et Fluminense, et une saoudienne, Al Hilal. On vous parlait de Paul Pogba qui revenait en France et signé en Ligue 1 avec Monaco. Eh bien, c'est le cas également de Olivier Giroud, le champion du monde 2018, vient de signer avec Lille pour 1 an, 13 ans après avoir quitté le foot français. Les précisions, signées Babacar Diarra, RFI.
L'attaquant de 38 ans a été présenté par son nouveau club, le LOSC Lille, où il a signé un contrat d'une saison. Il met ainsi fin à son aventure américaine, contrastée avec le maillot du Los Angeles Football Club, une aventure qui n'aura duré qu'une année. Lors de sa conférence de presse de présentation, l'ancien joueur de Chelsea, d'Arsenal ou encore de l'AC Milan s'est dit emballé par le projet du club lillois.
J'ai tout de suite été séduit par le projet lillois. Le fait de revenir en France après 13 ans, c'est une chance et un défi incroyable pour moi. Je sens que je peux apporter. Alors, à quel niveau et dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais faire le maximum. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce projet sportif qui m'a séduit, parce que je pense pouvoir être utile.
Le néo-lillois Olivier Giroud, dont le retour en France ne cache pas des intentions de retour en équipe de France, il a assuré que pour lui, la place est désormais aux jeunes chez les Bleus. Et puis notez que selon les informations de l'équipe, l'ex-attaquant lillois Jonathan David a trouvé un nouveau point de chute. Le Canadien, libre de tout contrat depuis fin juin, devrait découvrir la Serie A italienne sous les couleurs de la Juventus de Turin.
On continue l'actualité autour du ballon rond avec le début de l'Euro de football féminin. C'est la Suisse qui accueille l'événement et pour son match d'ouverture, eh bien défaite des hôtes 2-1 contre la Norvège. Défaite également de la Finlande face à l'Islande 1-0. Les Françaises affronteront les Anglaises ce week-end, Babacar Diarra.
Les Françaises sont-elles à J-3 avec en fil rouge l'inquiétude autour de l'une des cadres, la milieu de terrain Grijmbok. La joueuse du Paris Saint-Germain est touchée au mollet depuis une semaine et aujourd'hui, elle n'était pas à l'entraînement, restant plutôt à l'hôtel pour recevoir des soins.
7 euros, c'est l'occasion de nous intéresser au foot féminin et à son économie. Le secteur est en pleine expansion, comme l'explique Stéphane Genest au micro de Andréane Mellard pour RFI.
Il connaît une croissance économique pour le moins impressionnante. D'après le cabinet Deloitte, le marché mondial du sport féminin professionnel en général devrait atteindre 2,35 milliards de dollars cette année. Le foot féminin, lui, ne représente qu'un tiers de cette dynamique, mais il reste un moteur essentiel du secteur. Surtout, Andréane, il attire les investisseurs et les grandes marques.
Et ça se voit très concrètement, Stéphane, avec l'Euro 2025.
Preuve en est, le budget de l'événement a littéralement explosé. Il était d'un peu plus de 12 millions d'euros seulement en 2017. Cette année, il s'élève à 128 millions, c'est 10 fois plus en seulement 8 ans. Plus significatif encore, la dotation financière pour l'équipe gagnante, elle a été multipliée par 5 depuis 2017. Et ce qui frappe, c'est la diversification des revenus. À présent, présent, ils proviennent principalement du sponsoring et des partenariats. Les droits télé, eux, n'en représentent finalement qu'un quart.
Pour autant, même si l'activité économique du secteur explose, on est loin du niveau atteint chez les hommes.
C'est vrai, la différence est bien là. Déjà, sur la rémunération en France, la meilleure joueuse gagne environ 19 fois moins que le meilleur joueur masculin. Autre écart important, celui concernant les revenus liés aux euros féminins et masculins. Côté femmes, 65 millions d'euros. Côté messieurs, les retombées sont de plus d'un milliard d'euros. Donc vous en voyez, on n'est pas vraiment sur les mêmes proportions. Mais les choses bougent. L'UEFA mise d'ailleurs gros 1 milliard d'euros investis dans le foot féminin d'ici la fin de la décennie, avec l'objectif de créer tout de même 5000 emplois de footballeuses professionnelles.
Et c'est ce qu'il se passe, hein. Les clubs en tant que tels se développent. Les joueuses sont mieux payées, mieux formées. Le spectacle est là et ça fait venir les marques.
Exactement. Autre illustration donc que les voyants sont au vert pour le foot au féminin. Les sponsors répondent présents. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. On pense notamment à Adidas, Coca-Cola, Heineken ou Lidl. Concrètement, cela veut dire que toutes ces marques voient un intérêt à investir, car il y a du public devant sa télé. Les audiences télé, justement, qui sont toujours plus grandes. Les revenus médias sont aussi en hausse. Et pour cette édition, par rapport à 2022 d'ailleurs, ils ont pratiquement doublé. Bref, les planètes semblent être alignées pour les affaires du foot au féminin. Mais les défis, eux, restent nombreux, avec en premier lieu la création d'un modèle économique durable. Car ce marché, évidemment, est en pleine mutation et il devrait précisément atteindre sa maturité dans les prochaines années.
On poursuit avec du tennis et le tournoi de Wimbledon, bien sûr, et de nombreuses têtes de série déjà sorties du tournoi. Ça passe au deuxième tour pour la Française Elsa Jacquemot, tombeuse de la Polonaise Linette en 3-7, 6-7, 6-1, 6-4. Ça passe aussi pour Diane Parry, qui accède au troisième tour. Chez les hommes, Gaël Monfils l'a emporté en 5-7 contre son compatriote Hugo Humbert. Ça passe aussi pour Adrien Manarino, mais donc pas pour son compatriote Valentin Royer. Mais le vrai exploit français, c'est Olivier Pron qui nous le raconte.
Celui d'Arthur Rinderknecht, vainqueur en deux jours et en 5-7 du numéro 3 mondial, l'Allemand Sacha Zverev, la plus belle victoire de la carrière du Rennais, 72e dans la hiérarchie.
Je n'étais pas entièrement en contrôle parce que ce n'est pas possible de l'être face à un joueur comme Sacha Zverev qui est numéro 3 mondial. Il est si fiable, ça fait 10 ans qu'il est là. Moi, c'est ma première victoire contre un joueur du top 5, en plus sur le plus grand cours du monde. Je suis si content de le faire devant mes proches. C'est un moment incroyable pour moi et pour eux.
Et dans un tableau masculin marqué par l'élimination de 12 têtes de série sur 32, notamment 4 membres du top 10, à noter les qualifications de Novak Djokovic et des Français Corentin Moutet et Gaël Monfils. Chez les dames, sortie de route prématurée de cours en l'occurrence pour la lauréate de Roland-Garros, l'américaine Coco Gauff.
La troisième mondiale, Jessica Pegula, est également déjà hors de jeu. Taylor Fritz, lui, reste dans la compétition, mais il s'en est fallu de peu. Il s'est finalement défait de Giovanni Pecci-Péricard. Pour son deuxième match, Arthur Rinderknecht, on parlait de lui à l'instant, il affronte Garin. Et pour la deuxième fois de suite, il voit son match suspendu. Il mène actuellement 2-7-1. La suite, ce sera donc demain. Élimination de Benjamin Bonzi face à l'Australien Thompson en 5-7. Et on attend aussi l'autre match franco-australien, Alex de Minaur, Arthur Cazot, pour une place au troisième tour. Et enfin du cyclisme, J-2 avant le début du Tour de France. C'est la 112e édition du 5 au 27 juillet. Notre collègue Christophe Mallet est sur place comme tous les ans. Il va suivre les coureurs pendant 3 semaines et nous faire vivre la course au plus près. Les résultats, les coulisses, les extras. Il est déjà sur place. Christophe, bonjour. J-2, hein, donc.
Tout le monde du cyclisme se regroupe à Lille dans les prochaines heures. C'est la journée cruciale. Le début donc de ce Tour de France qui aura lieu samedi se prépare d'ores et déjà pour les équipes et pour les coureurs. C'est très important de s'acclimater aux conditions. Alors c'est vrai que ce jeudi il a plu énormément d'ailleurs sur l'île, ce qui devrait rafraîchir un peu les idées à tout le monde puisqu'il a fait assez chaud ces derniers jours. On ne prévoit pas forcément de pluie samedi, mais il y aura peut-être de la pluie dimanche. Alors les grosses attentes de ce Tour de France, c'est bien entendu la forme de Tadej Pogacar, la forme de Jonas Vingegaard, la forme de Remco Evenepoel. Ça c'est pour les trois favoris. Et quid des Français, que pourront-ils faire sur ce Tour de France? Quelques étapes par-ci par-là, très probablement, et peut-être aussi un espoir de voir quelqu'un comme Julien Alaphilippe briller peut-être pour une dernière fois sur les routes françaises. Donc il y a encore plein de questions qui pourront trouver leur réponse à partir de samedi, et bien entendu à l'antenne de SBS. Je vous invite également à suivre notre podcast SBS Cycling qui sera là tous les jours du Tour de France. Mais voilà, le monde du vélo, le monde du cyclisme se prépare en ce moment à Lille avec demain la présentation des équipes. On saura exactement qui sera là sur ce Tour de France.
Voilà, c'était Christophe Mallet en direct du Tour de France qui commence dans deux jours, le samedi 5 juillet. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal des sports. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.